Bon, je veux bien commencer. Sans doute sera-t-il intéressant de mettre en débat, à la lumière de ce que vous avez dit, la question de l'évaluation et de la notation à l'école. Néanmoins, je voudrais vous poser une question, commencer par rebondir sur ce que vous avez dit autour de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Moi, le distinguo me semble pas forcément si clair. Bon, enfin, vous avez bien dit que c'était un continuum, d'ailleurs. Mais où placez-vous là-dedans la reconnaissance ? J'entends par là la reconnaissance, effectivement, de sa propre valeur par autrui. On pourrait spontanément dire que c'est un élargissement de la notion de récompense. Néanmoins, la reconnaissance de sa propre valeur par autrui, il me semble que ça fait... Enfin, que ça favorise la construction de l'estime de soi, et aussi d'ailleurs que ça favorise le sentiment de compétence. Je me réfère notamment aux travaux de Bandura, et on sait que le sentiment de compétence favorise la performance. Oui. Donc, qu'en est-il de la reconnaissance dans ce schéma ?
Alors en fait, bon, ce que j'ai pas expliqué, mais ce qui est lié à la motivation intrinsèque, justement, c'est ce sentiment d'autonomie qui est favorisé par notamment ce sentiment de compétence. C'est-à-dire, pour se sentir autonome, c'est même essentiel, se sentir compétent dans le domaine en question. Et effectivement, ça peut passer par le fait de recevoir un feedback positif, en fait. Donc, j'ai dit en parallèle que les notes, effectivement, ça diminue le sentiment d'autonomie, donc on comprend plus trop, du coup, comment ça peut fonctionner, mais... ce que vous appelez reconnaissance, sentiment d'efficacité, etc., ça passe pas nécessairement par les notes, en fait. Ça peut être tout simplement des commentaires qui montrent qu'on a compris ou qu'on est efficace. Ou... L'idée, c'est que c'est vrai que le fait de recevoir une note qui est vue comme une récompense, en fait... ça, par contre, ça aura des effets négatifs, mais en tout cas, c'est effectivement essentiel d'avoir un sentiment de compétence pour se sentir autonome. Si on ne se sent pas compétent, effectivement, là, ça pose des problèmes après par rapport à... Ça peut créer de la peur de l'échec, etc. Donc c'est une chose importante, vous avez raison là-dessus. Mais qui peut être véhiculée autrement que par les notes.
Alors, ma première question, est-ce que vous avez étudié les facteurs aggravants dans l'échec ou la non-performance ? Est-ce que vous en avez tenu compte dans vos analyses ?
Alors, vous pensez à quelque chose en particulier ?
Non, je pense aux situations socio-économiques, oui.
Alors, moi, non, personnellement, je n'étudie pas ça, mais par contre, il y a pas mal de recherches là-dessus. Parce qu'il y a un résultat qui est un fait, d'ailleurs, qui a été trouvé très souvent, qui est que la réussite est corrélée souvent avec la catégorie socio-professionnelle des parents. C'est-à-dire que souvent, ceux qui ont accès aux branches les plus élevées de l'éducation, pour l'appeler comme ça, en majorité, c'est plutôt des personnes issues de milieux favorisés, en fait. Que de milieux défavorisés. Et donc, effectivement, ça, c'est un prédicteur très fort, en fait. Le milieu dans lequel on évolue, le milieu socio-économique, c'est un prédicteur très fort de la réussite scolaire. Et ça passe par énormément de variables, finalement, quand on y réfléchit. Ça peut être tout simplement l'établissement dans lequel on va aller. Ça peut être le milieu culturel aussi dans lequel on évolue. Le fait que souvent... si on a des parents issus de milieux favorisés ou qui ont des diplômes élevés, on va plus avoir accès à la culture, etc. Et ça vient aussi, alors ça c'est des recherches en cours que je peux pas vraiment vous expliquer très en détail parce que je le connais pas extrêmement bien, mais ce dont je parlais, cette fonction de sélection de l'université, de l'école en général, en fait elle a tendance à reproduire les inégalités sociales parce que la sélection... Elle va favoriser en fait les personnes de haut statut, donc les personnes qui évoluent dans un milieu socio-économique favorisé plutôt, et se faire au détriment des personnes de bas statut. Et donc en fait, elle est faite de façon à reproduire les inégalités. Et par exemple, c'est vrai que si on regarde les gens qui vont dans les grandes écoles françaises, souvent c'est si on regarde, disons, la catégorie socio-professionnelle des parents, on voit qu'effectivement, alors même s'il y a des politiques qui sont mises en place pour essayer de corriger ça, par exemple, je sais qu'à Sciences Po, il y a quelques années, il y avait, ils essayaient d'ouvrir en fait Sciences Po aux banlieues, par exemple. Donc ça, c'est pour essayer de corriger ça. Mais malgré tout, ça persiste. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort qui est, enfin, c'est véhiculé par énormément de petites choses, disons. Et notamment, voilà, le milieu culturel, l'accès aux informations, d'orientation, etc. qui font que souvent, effectivement, il y a une reproduction des inégalités. Je ne sais pas si ça répond.
Juste pour rajouter un élément, je vous prends le. Il y a un autre versant de la psychologie sociale qui s'intéresse aussi à la manière entre les préjugés, les stéréotypes sont importants dans les interactions sociales et donc y compris dans les interactions à l'école. Voilà, et c'est aussi un facteur explicatif du fait que plus les enfants sont perçus comme éloignés de l'école, que ce soit pour des raisons socio-économiques ou culturelles, et plus on va préjuger de leurs difficultés ou de leur incapacité à apprendre. Voilà.
Oui, c'est vrai. C'est effectivement les travaux sur ce qu'on appelle la menace du stéréotype qui montrent que effectivement le simple fait, par exemple, pour un étudiant d'indiquer sa catégorie socio-professionnelle ou le milieu socio-économique dans lequel il évolue, ça va activer ce stéréotype négatif. Et ça va, disons, c'est un stéréotype qui véhiculerait l'idée selon laquelle, effectivement, les personnes issues de milieux défavorisés seraient moins compétentes que les personnes issues de milieux favorisés. Et le fait d'activer ce stéréotype amène, de façon ironique, les personnes ciblées par ce stéréotype à effectivement faire moins bien. Justement, pour cette raison que j'ai évoquée dans ma présentation, de distraction, de rumination et d'interférence, finalement, qui fait que la peur, finalement, de confirmer le stéréotype amène à sa confirmation, en fait. Et donc ça, c'est vrai pour, effectivement, les catégories socio-économiques défavorisées. C'est aussi vrai, par exemple, pour les filles et les maths. Il y a pas mal de recherches là-dessus, parce que souvent, bon là je dérive un peu, mais il y a ce stéréotype selon lequel les femmes sont mauvaises en maths, que les maths c'est un domaine plutôt masculin, et donc si on regarde d'ailleurs les statistiques par exemple de Mathsup, Mathsp, on voit qu'il y a plutôt des hommes, donc que les femmes vont plutôt se diriger vers des filières littéraires, etc. Et donc ça aussi, c'est pas vrai, disons. C'est pas vrai que les femmes sont moins bonnes en maths. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a ce stéréotype qui veut que les femmes soient moins bonnes en maths. Et quand on active cette idée-là, ce stéréotype, les femmes vont effectivement ressentir une menace qui va ironiquement les faire moins bien réussir dans une situation où elles se sentiront évaluées par rapport aux hommes.
Et puis peut-être si on se base aussi sur la diapositive qui est là, les signes extérieurs et qui sont perceptibles de la réussite et de l'excellence scolaire, ben ça va être effectivement ceux qui réussissent, c'est ceux qui réussissent bien dans la compétition, qui vont avoir des récompenses, qui vont être médaillés, j'allais dire, qui vont être menacés, qui vont être médaillés, etc. Ce qui peut laisser à penser aussi que finalement la motivation, elle se doit d'être extrinsèque et elle se doit d'être dans ces domaines-là, puisque finalement tout ce qui relève de l'autonomie, de l'appartenance, de la confiance en soi, etc., c'est peut-être des choses qui sont moins perceptibles au niveau de la réussite scolaire. Hein ? Donc ça peut être, c'est peut-être aussi quelque chose qui joue.
Oui, d'ailleurs, je parlais de performance et de réussite scolaire. Il faut penser aussi à la façon dont on l'évalue, parce que finalement, la performance d'un élève, elle dépend beaucoup de l'évaluation telle que les enseignants la construisent. Qu'est-ce qu'on évalue vraiment ? On peut faire des évaluations de bas niveau, donc tester l'apprentissage par cœur, par exemple, et là, on va tester quelque chose de très bas niveau, disons. Donc, souvent, en fait, de par le fait que L'étudiant peut réussir, avoir des bonnes notes en trichant ou en adoptant le traitement de surface et l'apprentissage par cœur, etc. Ça montre qu'en fait, on a une idée de la performance qui est différente, un peu différente de l'apprentissage. On teste pas vraiment l'apprentissage, on teste une certaine forme d'apprentissage qui peut être de surface. Et donc, c'est aussi ce qu'on fait l'évaluation qui détermine vraiment cette performance. Qu'est-ce que c'est vraiment la performance, quoi ?
Alors, c'est pas fait exprès, mais ça va prolonger. Dans la mesure où on est d'accord, on peut pas vraiment s'extraire de la compétition. Est-ce que vous avez pu mesurer les effets d'une évaluation en groupe? Quand on fait travailler des élèves, je sais pas moi, quatre élèves, des groupes de quatre élèves, et qu'on évalue non pas les individus, mais le groupe, est-ce qu'on arrive à détricoter un peu certains des effets délétères de la compétition?
Alors, ce qui est bien, souvent, c'est de faire des évaluations en groupe, mais de noter individuellement. Parce que ça, c'est une façon d'éviter justement qu'il y ait ce qu'on appelle un effet de paresse sociale où on laisse les autres travailler à notre place. Donc, en fait, effectivement, l'apprentissage par coopération, c'est quelque chose qui peut effectivement... qui est bénéfique, disons. J'ai parlé au tout début de ma présentation du conflit socio-cognitif. Effectivement, c'est une chose qui, par exemple, le fait d'amener deux étudiants, ou plusieurs d'ailleurs, à débattre sur une question, sans être forcément d'accord, par exemple en leur donnant des informations différentes, et en les obligeant à reconstituer le puzzle, eux-mêmes, en fait, à réfléchir ensemble à une solution commune, c'est quelque chose qui est très bénéfique, justement, parce que l'échange, d'une façon générale, ça favorise plutôt l'apprentissage. Donc, c'est clairement une méthode qui devrait être utilisée le plus possible parce que, en plus, ça permet d'évacuer ce que je disais avant, le fait de percevoir autrui comme une menace, de percevoir les autres comme des gens qui peuvent potentiellement être meilleurs que nous. Et donc, ça permet l'échange, enfin, tout simplement favoriser l'échange. Par contre, ça peut être important de garder cette notion d'évaluation individuelle. Donc, juste pour qu'il n'y ait pas cet effet de paresse sociale.
Je m'excuse, bon, simplement sur le conflit socio-cognitif, je ne sais pas si... Enfin, bon, je me présente Philippe Leroy, je suis conseiller pédagogique en Moselle. Donc, par rapport à ça, le conflit socio-cognitif nécessite quand même, de la part des participants, d'inférer, donc d'avoir des connaissances qu'ils vont chercher ailleurs. Dans le cadre de gamins qui sont en difficulté, donc au niveau de l'école... qui ont des difficultés justement à inférer au niveau pragmatique ou culturel, le conflit socio-cognitif, souvent, il tombe à plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose.
Oui, oui.
Donc, je sais pas, effectivement, ça peut être une arme dans certaines situations, mais peut-être pas, ça vient peut-être pas forcément toujours en aide, je veux dire.
Oui, alors, ouais. Effectivement, ça demande de la décentration, disons. Ça demande de prendre le point de vue de l'autre, et de pouvoir envisager donc qu'il y ait des informations qu'on ne connaît pas, de pouvoir les prendre en compte, etc. Donc, c'est quelque chose qui demande effectivement de l'élaboration. Après, souvent, l'apprentissage peut se faire quand une personne qui peut être l'enseignant a des connaissances. De toute façon, il y a forcément une asymétrie entre les connaissances de l'apprenant et les connaissances de l'enseignant. Donc en fait, ici, l'enjeu, c'est quand même de donner un point, une cible, quoi, enfin, quelque chose qu'on va atteindre qui est au-delà de ce que l'étudiant peut faire, un peu au-delà, qui est une zone, justement, enfin, ce que Vygotsky appelle la zone proximale de développement, le fait que, il y aura quand même du chemin à parcourir, mais qu'il ne faut pas que ce chemin soit impossible non plus, sinon ça va créer de la menace aussi. Puis l'élève, il va avoir l'impression qu'il est nul et qu'il ne peut pas y arriver. Puis là, dans ce cas-là, ça ne sera pas terrible, effectivement.
Pas deux questions, mais deux réflexions que je partage avec vous. J'espère que je ne vais pas plomber l'atmosphère. Mais vous avez mis en lumière quelque chose qui m'a effrayée, moi, sur cette sélectivité du système éducatif et sur l'élitisme au travers de ce que vous avez décrit comme... comportements ou attitudes néfastes, déviantes. Et enfin déviantes, c'est moi qui qualifie ça déviant, mais vous avez parlé de triche, vous avez parlé de peur d'autrui, etc. Et je me dis donc, ça veut dire qu'on produit, on contribue à produire une élite qui n'est pas en capacité de travailler avec. Et ma question, c'était qu'en est-il de l'intelligence collective, du coup, qui est portée par cette élite, qu'on produit avec des travers, voilà. C'est ce à quoi j'ai pensé. Je me dis, mince, c'est effrayant, mais c'est vrai. En même temps, c'est un constat. Et puis l'autre, c'est pour rebondir aussi sur l'intervention. Donc la première de la collègue qui a parlé de la motivation, du continuum que vous aviez évoqué, intrinsèque et extrinsèque. Et c'est vrai que je me dis qu'effectivement, en étant dans la machine éducation nationale et dans la classe pour contribuer à la motivation des élèves, moi, il me semble qu'on est constamment obligé de jouer sur les deux. Et c'est heureux parce que quand on a atteint un certain stade de développement et qu'on s'est installé, on peut entretenir sa motivation intrinsèque, mais pas complètement. Effectivement, comme vous l'aviez dit, vous avez aussi besoin à des moments donnés de reconnaissance, et on en passe tous par là, parce que sinon si on travaille que sur sa motivation interne, on est un monstre d'égoïsme, me semble-t-il. Et puis pour la motivation extrinsèque, le tout petit, me semble que l'enfant, on rentre dans les apprentissages aussi pour faire plaisir, aussi pour la récompense à certains moments. Hein, dans le regard de l'autre, de l'adulte. Donc je crois qu'effectivement, il est important qu'on ait ça dans la tête et qu'on travaille à travailler les deux pendants de cette motivation.
Oui. Alors, je commence par le premier.
Oui, ça va.
oui, alors, pour ces comportements extrêmes, bon, c'est vrai que c'est un peu flippant hein, quand on voit jusqu'où ça peut amener, justement, les étudiants, cette envie de réussir. Alors, je pense que ça reste des comportements. Enfin, vous dites déviants, et je suis assez d'accord. C'est quand même assez extrême, je pense. Mais j'avais lu quand même que en Suisse, en tout cas, il y a un étudiant sur sept qui a au moins une fois pris justement ces médicaments qui sont censés. Donc bon, c'est quand même pas négligeable comme proportion. Et quand on regarde, je pense à la France qui a un système assez méritocratique justement aussi avec les classes prépa ou ce genre d'établissement fortement sélectif. Je pense, enfin, après c'est vraiment peut-être que dans certains établissements, mais il y a quand même vraiment cette tendance à vouloir de comportements antisociaux aussi qui peut être vraiment une réalité, c'est-à-dire le fait de vouloir garder ces informations pour soi, de ne pas vouloir communiquer avec les autres, parce que potentiellement, bah, quand il n'y a que deux places à la fin, par exemple, deux places dans l'école où on veut aller, c'est vrai que si on échange avec l'autre, on peut se dire « Ouais, mais là, je lui donne peut-être les armes pour qu'il soit meilleur que moi à la fin. » Donc, alors après, une autre tendance qui est l'échange, enfin l'exploitation d'autrui, où on va essayer de prendre des informations aux autres sans en donner, ce genre de choses qui est catastrophique, effectivement, par rapport à ce que vous appelez intelligence collective, c'est... Effectivement, c'est pas trop ça. Mais de toute façon, dans les élites, enfin, quand on regarde, ben, par exemple, le fonctionnement politique, sans rentrer là-dedans, mais finalement, il y a aussi cette tendance à montrer que ben, le fonctionnement, il est un peu chacun pour soi, et puis pas forcément, des fois, à la réflexion collective. Et c'est pareil aussi dans les médias, c'est finalement dans tous les systèmes de haut niveau. Malheureusement, la coopération, c'est pas trop la tendance maîtresse, quoi, disons. Et c'est plutôt, ce qui est à l'œuvre, l'envie justement de faire mieux que l'autre et de montrer qu'on est meilleur, etc., qui va pas favoriser effectivement l'échange d'informations. C'est vrai. Et alors, le deuxième point, effectivement, on est d'accord que là, je disais effectivement, ça, c'est deux extrêmes sur le continuum, où ce cas-là ici. De motivation intrinsèque pure, c'est un truc un peu idéaliste, en fait. Et que souvent, finalement, ce qui sera le plus fréquent, ce sera quelque chose qui sera un peu entre les deux. Ce qu'on appelle la motivation internalisée ou introjectée, j'ai un doute, mais enfin bref, c'est l'idée qu'en fait, ben, on peut comprendre qu'il est nécessaire de faire quelque chose pour faire quelque chose qu'on a envie de faire. Enfin, c'est pas très bien formulé ce que je dis, mais par exemple, j'ai envie d'être avocat. C'est vraiment ça que je veux faire absolument dans la vie. Donc, je sais que je dois en passer par le fait de réussir cet examen-là. Mais si je veux réussir cet examen, si je veux passer tel concours et réussir tel concours, c'est pas une fin en soi, c'est pas juste pour exceller dans ce que je fais, c'est juste parce que c'est ça qui va ouvrir la porte finalement à la formation que j'ai envie de faire. Donc ce qu'il faut voir, c'est la hiérarchie finalement des buts. Est-ce que je fais juste pour la note, juste pour la récompense, juste pour l'argent, juste pour etc. Ou est-ce que je le fais pour atteindre quelque chose qui correspond à quelque chose que j'ai intrinsèquement envie de faire, en fait. Donc c'est là que vraiment cet extrême-là est mauvais, parce que c'est ce que je disais, dans l'école où ils expérimentent la rémunération contre une bonne note, ben, le gamin, qu'est-ce qu'il fait ? Il va travailler juste pour avoir la note, et puis juste pour avoir les sous. Et si un jour on enlève ça, il n'aura plus aucune raison de travailler. Donc c'est en ça que ça, c'est une des dérives. Après, effectivement, si la note sert le sentiment de compétence, le sentiment d'efficacité, c'est quelque chose qui est clairement nécessaire. Et si on ne se sent pas compétent, on va avoir tendance à avoir la motivation qui va un petit peu s'érailler. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'est-ce que c'est le but à long terme ? Qu'est-ce que c'est que je poursuis ? Pourquoi je fais telle chose ? Si je le fais juste pour l'ego, juste pour l'estime de soi, enfin, en soi, disons, vouloir faire quelque chose juste pour une préoccupation d'ego, c'est pas une bonne motivation non plus. Parce que disons, ça rentre plus vraiment dans l'autonomie, dans la motivation intrinsèque aussi, en fait. Et probablement, ça va pas servir vraiment la persistance non plus. Donc, disons, vouloir faire quelque chose aussi pour faire plaisir aux parents, etc. Mais je suis d'accord que chez les enfants jeunes, en fait, ben, c'est difficile de... Des fois, ils comprennent pas forcément pourquoi ils doivent travailler, parce que même il y a des systèmes scolaires où, je crois que c'est le cas au Japon, justement, où il y a un examen très important qui se fait alors qu'ils sont très très jeunes et qui détermine vraiment la suite pour eux, quoi. Et c'est le cas en Suisse aussi, d'ailleurs, où ils sont aiguillés très tôt, en fait, dans leur scolarité, soit vers une filière qui est un petit peu élitiste, soit vers d'autres filières. Donc, le fait d'avoir cet examen aussitôt, ben, c'est finalement, ils n'ont pas forcément conscience des enjeux. Et donc, à partir de là, c'est sûr qu'ils vont travailler juste pour parce qu'on leur dit de le faire et pas forcément parce qu'ils comprennent les enjeux qu'il peut y avoir derrière.
Alors, peut-être moi je voulais dire deux mots aussi par rapport à cette affaire de motivation. Je pense que si vraiment on repart du terrain et des tensions qu'on a en permanence sur le terrain et des compromis qu'on est tout le temps en train de faire sur le terrain, c'est effectivement cette idée de on sait qu'un enfant, pour apprendre, il a besoin qu'on lui donne confiance en lui, il a besoin de reconnaissance, de construire l'estime de lui. Donc finalement, ça nous conduit parfois à un peu une forme de démagogie, hein. Mais en même temps, on sait bien que il faut pas le leurrer non plus. Donc on est toujours dans des équilibres un peu précaires entre jusqu'où je vais finalement dans la démagogie pour susciter la motivation, et puis où je m'arrête quand même, parce qu'en même temps il faut pas que je le leurre non plus. Et on sait que là il y a des équilibres qui sont très difficiles à trouver, hein, entre compromis et compromission, hein, d'ailleurs, hein, ça se joue aussi à ce niveau-là. Et on sait que là il y a des choses très fortes qui se jouent, notamment dans le premier degré, pour accrocher les élèves. Et alors c'est Stéphane Bonnery qui explique très bien ça, notamment autour des malentendus socio-cognitifs, justement, mais c'est aussi par rapport à ça que quelquefois il y a des ruptures qui sont d'une très grande violence entre le premier degré et le second degré, parce que peut-être que dans le second degré aussi on est moins, enfin quelquefois les enseignants sont un peu moins attentifs à ménager cet équilibre entre démagogie et ne pas leurrer les gamins. Voilà, c'était juste ma remarque.
Oui, bonjour. Moi, je voulais m'exprimer en tant qu'ex-président de club sportif. Hein, j'ai été pendant 8 ans donc président d'un club de cyclisme, et donc j'ai l'impression de retrouver l'élément dans lequel donc j'ai vécu pendant 8 ans, hein, à savoir le stress de la compétition, les enjeux, et comment motiver les jeunes sans les pousser, enfin, au-delà de leur capacité, en utilisant des produits, vous parlez là de dopage, en fait. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression d'être plongé dans cet univers-là. Mais heureusement, on a trouvé des solutions, notamment on avait supprimé les primes pour les minimes jusqu'à cadet, puisqu'avant il y avait des primes de course. Hein, justement, ça revient là à ce que vous avez évoqué, hein, ne pas être motivé uniquement par l'argent. Mais cependant, il fallait quand même qu'on prépare les enfants aux compétitions. Je parle surtout des enfants, hein, des écoles de cyclisme. Et donc, comment concilier les exigences de la compétition? Parce qu'il y a bien un moment donné où il faut échelonner les compétiteurs, là où les apprenants, les préparer au stress, en tenant compte de tout ce qu'on vient de dire. Je crois que c'est ça notre challenge. Parce qu'à un moment donné, je vais dire dans la vraie vie, quand on est en entretien de sélection, quand on participe à un concours, eh bien forcément l'autre c'est un adversaire, c'est pas un ennemi, mais il nous plonge quand même dans un univers de compétition où pendant un laps de temps donné, et avec un environnement bien sûr, un cadre légal, hein, ou réglementaire si c'est une compétition, eh bien, il va quand même falloir donner le meilleur de soi sans écraser les autres. Voilà, je crois que c'est ça qui est vraiment au cœur de l'évaluation. Parce que être un compétiteur, quelque part, c'est s'exposer à être évalué. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le monde sportif. Voilà, c'est un témoignage.
Mais en fait, c'est vrai que finalement, le système de sélection de l'univers de l'école, de l'environnement éducatif, d'une façon générale, il est valable aussi un peu partout. Il est valable dans le sport, c'est vrai. Il est valable dans le milieu de l'entreprise, souvent au milieu professionnel, c'est comme ça aussi. La plupart du temps, pas toujours, mais souvent, y a bien l'idée, effectivement, qu'il faut être productif, il faut qu'il y ait du rendement, il faut, quand on passe un entretien d'embauche, il faut convaincre, il faut montrer qu'on est le meilleur, etc. Ça, je suis d'accord. Et c'est en ça, souvent, que, effectivement, on dit que ce système sélectif de l'école, il est aussi là, tout simplement, pour former aussi les élèves à ce système-là, dans lequel ils vont évoluer un peu toute leur vie, disons. C'est pour ça que je disais aussi à la fin que même si la motivation autonome et l'idée justement de réduire un peu ce côté menaçant l'évaluation, c'est un peu l'idéal, mais c'est un idéal qui est compliqué, très compliqué à mettre en place, parce que, ben, comme je disais, la notion d'excellence et de compétition est un peu partout dans notre environnement. Mais dans la mesure où on connaît les effets délétères que ça peut avoir, je pense qu'il y a de plus en plus, peut-être, des tentatives de réduire ça ou de réduire l'effet négatif que ça peut avoir. Bon, il faut dire aussi que des différences interindividuelles en termes de gestion de la pression. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Et donc, effectivement, les gens qui aiment le challenge, par exemple, vont mieux gérer cette compétition. Il y a des gens qui adorent être en compétition, finalement, et qui gèrent ça très bien. Mais bon, globalement, il y a quand même l'idée vraiment que j'espère que vous retiendrez de ce que j'ai présenté, c'est que finalement, cette sélection, cet environnement de sélection, qui peut parfois être menaçant, là où c'est le plus dramatique, peut-être, c'est tout simplement que ça réduit l'envie d'apprendre et la focalisation sur l'activité, sur ce qu'on est censé vraiment gagner en termes de savoir, de savoir-faire, etc. Parce que le focus, il est plus sur ce contenu, sur ce qu'on est censé apprendre. Il est plus sur l'envie de gagner, l'envie de montrer, etc. Donc le focus, il n'est pas où il faut, pour résumer ça. Donc je pense que c'est la plus grande dérive de la compétition. Si on arrive à faire une compétition qui maintienne quelque part aussi en parallèle cette envie d'apprendre cette envie de faire des efforts, de s'engager aussi dans la tâche, alors c'est très bien. Honnêtement, si on arrive un peu à mixer les deux, finalement, c'est peut-être ça la conclusion, c'est que vouloir faire mieux que les autres n'exclurait pas nécessairement de vouloir apprendre. Il peut y avoir les deux pourraient coexister, mais il faut être très attentif à ce que le premier ne bouffe pas le deuxième. C'est-à-dire que cette envie d'excellence ne grignote pas trop, enfin ne devienne pas trop envahissant et ne donne pas envie aux élèves, aux étudiants, de passer par le chemin le plus court, à savoir de vouloir éventuellement tricher ou avoir des comportements antisociaux ou apprendre de façon superficielle et pas de façon profonde, parce que c'est ça le vrai danger, in fine, quoi. C'est vraiment de détruire l'envie d'apprendre de l'élève.